La semaine dernière se tenait à Gap le procès de 7 personnes poursuivies pour avoir aidé des migrants à entrer en France en avril dernier. Une quinzaine d'habitants du plateau de Millevaches, solidaires et motivés, ont fait la route jusqu'à Gap pour aller les soutenir. Alors avec mon micro, comme on commence à connaître les parvis des tribunaux, on a suivi cette équipée pour un voyage éclair direction les Hautes-Alpes. Dès 8h30, heure de début du procès, une foule de 200 personnes était déjà présente devant le tribunal de Gap. À la mi-journée, nous étions plus de 1000. Des manifestants au profil varié, venus des alentours de Gap, mais pas seulement.
On vient de Barré-sur-Méouge, dans les Hautes-Alpes, dans le sud des Hautes-Alpes.
Moi, je suis de Genève.
On vient de Grenoble.
On vient de Marseille.
On vient d'Italie.
Valle de Sousa.
De Pontis.
67 habitants, Pontis aussi.
Sainte-Marie-du-Mont, en Chartreuse.
Gap.
Et moi, je viens de Mince, dans le Trièves, Sud-Isère.
Je viens du Vaucluse.
De Liman.
De Fort-Calquier.
Je viens de Clermont-Ferrand.
Moi, je viens de la Loire, vers Roanne.
Du côté des structures présentes, ce sont plus d'une soixantaine d'associations, collectifs, syndicats qui étaient représentés. On pouvait croiser des banderoles du Parti communiste, les autocollants de la CGT, mais également des assos d'habitants sans étiquette, tels que le Cercle des voisins du centre de rétention de Cornebarieux ou le collectif Tous Migrants.
Oui, je m'appelle Laetitia et je fais partie du collectif citoyen Tous Migrants. Donc c'est un collectif qui est né en 2015, si je me souviens bien, au départ à Briançon pour œuvrer pour l'hospitalité. Et puis depuis, le contexte briançonnais a changé puisqu'on a beaucoup de personnes qui arrivent par la frontière. Donc Tous Migrants, on travaille sur toutes les atteintes aux droits qu'on observe à la frontière. On essaye de travailler sur le plaidoyer et aussi sur le basculement de l'opinion publique en étant au contact de la population et partager les témoignages qu'on recueille et faire vivre aussi et montrer que chacun peut s'investir d'une manière ou d'une autre dans cette grande aventure de l'hospitalité. On a des actions juridiques pour soutenir les personnes exilées, mais aussi pour condamner les atteintes aux droits à la frontière, donc qu'on observe à la frontière franco-italienne. Donc plusieurs, on essaye de dénoncer vraiment et pas seulement écrire, mais on passe aussi à l'acte en utilisant les moyens juridiques. Et on soutient bien sûr les solidaires qui sont aujourd'hui jugés. On travaille avec eux avec les avocats et on travaille sur tout le soutien juridique avec les personnes qui sont condamnées pour délit de solidarité, bien sûr un délit qui ne devrait pas exister. C'est un travail de longue haleine, le temps judiciaire c'est pas le temps, c'est un temps très long, donc pour le moment on n'a que des affaires en cours. Et on espère bien sûr que les issues seront favorables. Alors on travaille beaucoup en intercollectif, on travaille avec la CIMAD, la NAFE, Logisti, et on met tous les moyens humains, on rassemble ces moyens-là pour justement essayer de se faire mieux entendre et des citoyens et de la justice.
Est-ce que ailleurs en France, si des personnes ont des difficultés, ils peuvent vous appeler pour avoir quelques conseils ?
Alors, on peut pas, sur des cas individuels, on peut pas trop donner de conseils parce que sinon on serait complètement débordé, on n'y arrive pas à suivre. Par contre, on est plutôt dans la mutualisation des expériences, des collectifs. Donc, bien sûr, avec la montagne Limousine, on a des choses à se dire. Ne serait-ce que sur Dublin, enfin, toute la mobilisation que vous avez eue autour de Dublin, c'est une mobilisation que nous, on avait eue bien avant, avec une marche pour le droit d'asile vers le préfet. On est arrivé juste ici, d'ailleurs, à l'endroit où je vous parle. Donc, bien sûr, on essaie de plus se parler entre intercollectifs et pas sur des cas individuels. Après, sur les questions de délit de solidarité, bien sûr que là, ça passe par des cas individuels et qu'on peut se parler et essayer d'avancer ensemble pour défendre la même cause.
La matinée devant le tribunal fut rythmée par des prises de parole. Le micro étant ouvert, ils sont nombreux à être montés sur scène en cette journée du 8 novembre. Des interventions empreintes d'humour, des témoignages durs et surtout beaucoup de messages de soutien et d'espoir. Christophe Deltombe, le président de la CIMAD, une association d'aide aux réfugiés d'envergure nationale, a fait le déplacement jusqu'à Gap.
Oui, le droit de manifester aujourd'hui est en cause et c'est grave. Je voudrais rajouter que ce droit de manifester s'inscrit dans une véritable lutte, un combat que nous menons tous, qui est un combat d'humanité, un combat de solidarité, un combat d'ouverture et d'accueil. C'est un combat important parce que l'opinion publique, nous le savons, n'est pas très favorable aujourd'hui à cet accueil. Et donc ce combat est d'autant plus nécessaire et d'autant plus important. Alors, il est vraiment détestable de voir que ce combat, qui se traduit par des manifestations, fassent l'objet aujourd'hui d'incrimination. Le 6 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré que le principe de fraternité était un principe constitutionnel. C'est une victoire tout à fait inattendue, mais très importante. Oh, certes, elle est imparfaite, cette victoire. Certes, il aurait fallu que le Conseil constitutionnel aille plus loin, c'est-à-dire qu'il déclare que la fraternité va jusqu'au passage des frontières. Mais il s'est arrêté en cours de route, il a quand même déclaré que ce principe était constitutionnel et que par conséquent, lorsque l'on agit pour des raisons humanitaires, on ne peut pas être l'objet de poursuites. C'est le délit de solidarité qui a un peu pris l'eau ce jour-là, et tant mieux, et on s'en félicite. Ça n'est pas encore gagné, il y a encore des procès qui vont être menés, parce que, nous le savons, les tribunaux peuvent interpréter la question de l'action humanitaire de manière un peu tordue. Je me permets de rappeler que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le procès de Cédric Auroux, a déclaré qu'il n'avait pas agi de manière humanitaire puisqu'il avait agi de manière militante. Sauf que quand on agit sur une militance qui est humanitaire, on finit par se marcher sur les pieds. Il y a forcément là une incohérence. Alors, je voudrais dire une dernière chose. La bande organisée dont il est question dans ce procès, c'est nous tous. Nous sommes une bande organisée. Au profit d'actions d'humanité. Alors, organisons notre bande. Organisons, continuons à organiser notre bande. Faisons en sorte que ce délit disparaisse et il y a encore du travail. Et faisons surtout en sorte que la solidarité, qui est un peu le ferment sur lequel nous travaillons, soit désormais un principe incontournable, un principe qu'on ne puisse pas attaquer, un principe sur lequel nous continuerons à travailler les uns et les autres.
Sur un ton plus léger, Élie, le fils d'un des inculpés de Briançon, est à son tour venu dire quelques mots et au passage, tacler gentiment les habitants du plateau.
Mais reprenons-nous. Ne passons pas à côté de la question centrale qui nous anime toutes et tous aujourd'hui. Les sept de Briançon sont-ils disruptifs ? En plein air jupitérienne, alors que nous baignons dans la Startup Nation, ai-je encore besoin de rappeler la définition du mot disruption ? Deux points, ouvrez les guillemets, fermez vos gueules. Méthode consistant à identifier les conventions culturelles dominantes, puis à les remettre en question pour construire et mettre en œuvre une communication originale. Les sept sont-ils disruptifs ? Eh bien, puisque vous me le demandez, je vais vous donner la recette du pâté de ministre. Alors, il vous faut un bon ministre, dans la force de l'âge. Puis vous prenez ça ici, voire figure 1. Vous mettez dans un récipient de taille respectable, voire figure 2. Puis vous touillez vigoureusement et vous faites cuire, voire figure-toi, au thermostat traversé du Sahel un jour de canicule. Une fois cuite, si votre terrine braille encore et sort des conneries dont on peine à trouver la signification, par exemple, je cite, « J'en ai un peu marre de passer pour le facho de service », là, c'est un cas particulier, vous avez cuisiné Gérard Collomb. Il est réputé coriace. Alors pensez aussi à retirer le costume avant de faire votre pâté de ministre, parce que sinon la cravate se coince dans le mixeur. Peut-on être solidaire de tout ? Assurément, non. Peut-on être solidaire avec tout le monde ? Peut-on être solidaire avec des gens qui habitent dans le Limousin ? Question vache. Peut-on être solidaire avec les habitants du plateau de Mille Vaches ? À Faux-la-Montagne, sur le plateau, ils s'appellent les faux solidaires. Si ça, c'est pas ambigu. Mais ma réflexion s'immisce en terrain glissant. Il y a des Limousins parmi vous. Et j'en ai fait l'expérience aussi, vivre dans le Limousin demande du cran. C'est beau, mais c'est humide. La première difficulté est donc de trouver quelqu'un qui habite dans le Limousin. Et une fois passé cette étape, il faut avoir foi dans la montagne. Peut-on être solidaire avec des Belges une fois ? Solidaire avec des frites ? Tout ça pour dire qu'en Limousin et en Belgique, ils ont aussi un procureur qui leur mène la vie dure. En Belgique, 11 de vos copains étaient sur le banc des accusés hier, pour les mêmes raisons que vous, pendant que vous étiez en train de vous dandiner sur de la musique à tendance hippie. Bravo, félicitations. Amis creusois, amis belges, si vous voulez vous exiler dans le 05, on vous accueille. Bref.
Vers la fin de matinée, ce sont des lycéennes de Gap, très émues, qui sont montées sur scène. Elles ont fait le choix de lire des récits de passage de la frontière par des réfugiés. Celui qui suit est un texte sur Blessing, morte l'hiver dernier en essayant de passer la frontière.
Bonjour. Un jour, quand la télévision marchait encore dans mon village, j'ai vu un magasin de vêtements avec de grandes filles mannequins, blondes et rousses. C'était à Paris ou en Amérique, je sais pas. Puis l'image a tourné doucement sur une fille mannequin noire. Elle ressemblait aux femmes de notre ethnie. Quand j'aurai l'argent, je reviendrai chez moi. Mon fiancé m'attend. La dernière femme de mon père à mon âge, elle est contente de me voir partir. Je dois leur envoyer de l'argent quand je serai hôtesse. Le 7 mai dernier, vers 5h du matin, j'ai été poursuivie par la police dans la vallée de la Clarée. Je suis tombée dans la Durance. Je me suis noyée. Je m'appelais Blessing. J'avais 21 ans. Donc je tiens juste à dire que moi, j'ai été à son enterrement à Blessing. J'ai vu sa famille, honnêtement. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai senti de la haine. Mais une haine immense envers ces personnes qui sont censées nous protéger et qui deviennent des assassins et qui font en sorte que des personnes... Enfin, il y a 3 personnes qui sont mortes cet hiver à Briance, même peut-être plus. Et tout ça parce que... Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui veulent juste trouver une vie meilleure.
Merci beaucoup.
À la mi-journée, l'odeur de nourriture et le froid ont attiré les manifestants vers un four à pizza artisanal en train de vivre sa première tournée.
Alors voilà, moi je m'appelle Nicolas, je suis ici à Gap depuis 3 ans, j'ai rencontré des amis qui se battaient par rapport à la cause des migrants. Donc voilà, je les ai vite rejoints, moi je venais pour ça en fait, sinon je serais parti. Et après, bon, on a ouvert déjà un premier squat, plusieurs squats, et voilà, petit à petit on a formé des liens partout, on a un gros réseau, de plus en plus gros. Et là, aujourd'hui, on a fait un four à pizza pour soutenir les maraudes à la frontière. On va essayer de vendre des pizzas à prix libre pour aller aider les migrants qui sont coincés par la police à la frontière. Donc ce four, il est fait à la base d'un cumulus qu'on a décortiqué. À la base, c'était une formation soudure pas loin d'ici. Et on s'est dit, à la fin du stage, on s'y met, puis on construit un four à pizza pour offrir à ceux qui se battent contre la frontière. Voilà, c'est parti comme ça, quoi. Alors j'ai fait ça avec un Soudanais, voilà, je dirais pas son nom, et voilà, on a fait ça à deux pendant une semaine, il est venu à la maison, puis voilà, on a bricolé, quoi. Voilà, là c'est l'immigration. Ouais.
L'après-midi, micro rengainé, je l'ai passé dans le tribunal. Et là où la matinée dehors m'avait réchauffé cœur et esprit, dans la salle d'audience, ce fut une brutale douche froide. Condescendance, ton accusateur et désintérêt pour la parole des prévenus, la juge avait des airs de procureur pendant ce procès. Pour vous donner une idée, voici une ou deux phrases que j'ai pu entendre. En parlant de la marche, elle dit des réfugiés qu'ils ressemblent à un troupeau dirigé par des bergers. Des policiers, elle dit qu'il faut rendre hommage à leur calme et à leur patience. Sur la diversité ethnique des participants à la marche, elle dira en rigolant à moitié « Il y avait des blancs, des noirs, je n'ai pas vu beaucoup de jaunes ». Repartant vers notre montagne à 18h, je n'ai pas pu assister à la suite de l'audience. Notre voyage s'est achevé à 1h30 du matin. Au même moment, le procès des 7 de Gap se terminait. Le rendu du délibéré sera le 13 décembre. Pour l'heure, je vous propose d'entendre le récit d'un des membres de l'équipage de cette virée solidaire.
Donc, la semaine dernière, il y a 3 plus 4 personnes qui soutiennent les exilés qui passaient en procès à Gap. Et donc, il y a eu un gros appel à rassemblement devant le tribunal toute la journée où ils passaient en procès. Et donc non, nous on a décidé à quelques-uns de la montagne Limousine de partir en délégation pour les soutenir. Du plateau, il y avait notamment pas mal de personnes qui étaient présentes, c'est des personnes qui font partie d'associations de soutien aux exilés sur le plateau. Donc il y a des gens des Moutiers, des gens de Tarnac, des gens de Faux-la-Montagne. Des gens de Feltin. Alors en fait, on est quelques-uns à Tarnac à être en lien avec des personnes du collectif El Mamba. C'est un collectif de Marseille qui existe depuis quelques années et qui est très très actif dans le soutien aux exilés sur Marseille, mais aussi sur la frontière franco-italienne. Et donc, on est en contact avec eux parce qu'on fait aussi, on soutient aussi des personnes ici sur le plateau. Et donc, ils sont venus à la fête de la montagne, à la dernière fête de la montagne Limousine à La Selle. Et ils ont proposé une discussion sur, notamment pour expliquer pourquoi il y avait cette personne qui passait en procès à Gap donc la semaine dernière, et aussi pour nous expliquer un peu tout ce qu'ils faisaient sur Marseille et sur la frontière, et notamment sur la question des Dublinés, des personnes qui ont leurs empreintes en Italie, qui arrivent en France et qu'on réexpulse en Italie, enfin l'État français. Et donc, quand ils sont venus à la fête de la montagne, ils ont fait tout un appel aussi pour essayer de mobiliser des gens pour qu'ils viennent les soutenir au procès. Et donc, ces gens du collectif Mamba sont donc très proches, je pense, d'une partie des gens qui passaient en procès à Gap. Donc, on est parti à deux voitures, les 14 personnes du plateau. Du plateau, c'est quand même, il faut être motivé pour y aller parce que c'est très long. Donc, on a mis une bonne dizaine d'heures, je pense, pour arriver... dans la petite ville, le petit village où il y avait une soirée de soutien pour le procès. On est arrivé à Guillestre, donc très très tard dans la nuit. Et juste avant d'arriver dans le petit village de Guillestre, il y avait un gros dispositif policier, gros contrôle. Je pense qu'il y avait une bonne quarantaine de flics qui bloquaient l'entrée du village. Et donc évidemment, on a été tous contrôlés, carte d'identité, machin. Et donc voilà, c'était très sympathique pour arriver. Ils arrêtaient tout le monde. Ils contrôlaient toutes les personnes qui allaient dans le village et qui revenaient de la soirée de soutien. Donc tout le monde est fiché, quoi. Le lendemain, ils ont contrôlé surtout les personnes qui arrivaient, donc tous les cars, tous les bus de soutien qui arrivaient de Marseille, de Toulouse. Ils ont tous été arrêtés. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'ils n'ont pas pu prendre toutes les identités parce que les Marseillais nous ont raconté qu'ils s'étaient mis d'accord pour ne pas décliner leur identité dans les bus. Par contre, ils ont eu droit à 1h30 de contrôle quand même avec les chiens et tout ça.
Et sur le déroulement de la journée, ça s'est passé comment ?
Et donc, le rassemblement était prévu à 8h30 le matin et il y avait déjà plusieurs centaines de personnes. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'est agrandi. Je pense qu'il y avait, je dirais qu'il y avait 1000-1500 personnes sur place. Et donc, les collectifs de soutien avaient organisé tout un espace avec des barnums, avec de la nourriture, des boissons. Et il y avait une scène où il y a pas mal de gens de différents collectifs, associations, de soutien qui ont parlé. Et ensuite, donc il y a quelques personnes qui sont rentrées dans le procès, mais la salle était assez petite. Il y avait que, je pense, une quarantaine de personnes qui ont pu rentrer. Donc de temps en temps, on pouvait avoir un peu des échos de comment ça se passait à l'intérieur du procès pendant la journée. Vers 15h, je pense qu'il y a eu un départ en manifestation dans la ville. La plupart des gens sont partis, donc on devait être bien 1000 personnes, 1500. Et ce qui m'a assez étonnée, c'était les habitants de Gap, quoi, qui regardaient passer le cortège sans aucune réaction, ni positive ni négative. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de soutien dans la ville de Gap concernant l'accueil d'exilés, quoi. Dans la soirée, on s'est retapé les 8 heures de route. On est arrivé en pleine nuit sur le plateau. Bien fatigué.
Pourquoi il était important pour vous de vous rendre sur place ?
Nous, il nous semblait important d'aller les soutenir. Déjà parce qu'ils sont venus à la fête de la montagne. Ils ont fait le voyage en sens inverse pour venir nous expliquer ce qui leur arrivait dans les montagnes. Et voilà, il nous semblait nécessaire d'aller les soutenir. Et aussi parce qu'en fait, on est quand même en contact avec toutes les personnes qui soutiennent les exilés ici sur le plateau sont en contact aussi avec les personnes qui luttent sur la frontière franco-italienne. Parce que il y a quelques personnes du plateau qui étaient dublinées et qui ont été expulsées en Italie et qui ont dû revenir. Et quand ces personnes-là reviennent, elles passent en fait par les lieux qui sont occupés ou qui sont pris pour accueillir les exilés qui passent par la montagne.
Mais ça mène à la prochaine question. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les luttes qui sont menées à la frontière et celles que nous, on mène sur notre territoire ?
Il y a un lien énorme parce qu'une grande partie des personnes qui arrivent, notamment dans les CAO, donc les centres d'accueil et d'orientation qui sont par exemple à Peralcchâteau, une grande partie, c'est des personnes qui arrivent d'Italie et donc qui sont pour la plupart dublinées, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont passées par ces lieux. C'est-à-dire qu'une grande partie des personnes qui passent par la frontière, toutes les personnes qui passent par la frontière, en fait, elles n'ont pas envie de rester habitées à la frontière franco-italienne. La plupart, elles veulent continuer leur trajet, soit dans différentes villes de France, soit même aller au-delà, en Angleterre, etc. Du coup, c'est important pour eux qu'il y ait d'autres lieux sur leur route migratoire pour pouvoir s'arrêter et être conseillés, hébergés, soutenus.
Je pense que dans les temps à venir, du fait notamment peut-être de cette décision de refuser les expulsions sur la montagne Limousine, il pourrait y avoir de tels procès sur notre territoire.
Alors, il y a une différence quand même, c'est que nous, on n'est pas sur un endroit frontalier. Donc, je pense que la répression est quand même moindre, puisqu'on ne tente pas de faire passer des gens d'une frontière à l'autre. Par contre, en effet, il y a, comme il y a eu quand même beaucoup de mobilisation ces derniers mois sur la montagne Limousine pour soutenir, pour essayer d'empêcher ou en tout cas soutenir des personnes qui allaient être expulsées en Italie, c'est sûr que ça, ça plaît pas ni à la préfecture, ni aux policiers. Voilà. Et donc, il y a déjà des personnes qui sont passées, comme Michel Hulec, en procès.
Mais pas pour le même
type. Après, ça ne sera pas les mêmes chefs d'inculpation. Parce que là, les personnes qui sont passées en procès à Gap sont accusées d'être une bande organisée, trafiquant de migrants. Par contre, on ne sait pas. C'est sûr que là, avec la dernière loi sur l'asile et l'immigration, il y a un peu tout qui se resserre. Donc, on ne sait pas s'il y a peut-être des gens qui vont être accusés d'héberger des sans-papiers bientôt et des choses comme ça, quoi. Mais... Ou se faire arrêter dans une voiture avec quelqu'un qui n'a pas de papier. Je pense que c'est aussi possible qu'on nous mette une amende parce que c'est illégal de transporter quelqu'un sans papier, même si tu ne passes pas une frontière. De toute façon, là, il y a quand même une partie des collectifs de soutien sur le plateau qui se forment et qui essayent de comprendre comment fonctionnent les lois sur ces questions-là, notamment sur la question d'accueillir chez soi des personnes sans papier. Et c'est sûr que toutes ces informations, elles passent d'un collectif à l'autre. Une fois que quelqu'un fait une trouvaille, ou en tout cas quelqu'un découvre qu'il y a une jurisprudence sur ces questions-là, les informations passent entre tous les collectifs de soutien, quoi.
Ok. Et les liens étant maintenant faits, est-ce qu'il est prévu que les militants de Gap reviennent sur le plateau de Mille Vaches prochainement ?
Alors, il y en a quelques-uns qui vont peut-être venir à la prochaine fête de la montagne. Parce que là, de toute façon, il n'y a pas encore le rendu du... peut-être qu'ils feront appel, peut-être que ça va continuer... les luttes pour les soutenir. Donc, j'imagine qu'ils reviendront peut-être au moins pour la prochaine fête de la montagne Limousine, quoi. Et le collectif El Mamba, on est en lien avec eux de toute façon, mais peut-être qu'ils repasseront aussi nous voir si on organise des soirées, notamment sur le Soudan, parce qu'eux, ils accueillent beaucoup de... En tout cas, ils soutiennent beaucoup de Soudanais. Ils ont réussi, il me semble, à faire à lancer une plainte contre l'Italie pour mauvais traitements, mais aussi bon, j'espère que la juge va être plus clémente que le procureur, mais d'après ce qu'on nous a raconté, les échos, là ça avait l'air d'être une juge bien raciste. Ça risque d'être quand même très compliqué, mais on va en tout cas on les soutiendra, quitte à se retaper les 15 heures de route pour monter à Gap. On reviendra
brique par brique. Pierre par pierre, nous détruirons toutes les frontières. Brique par brique, pierre par pierre, nous détruirons toutes les frontières.
Ouvrez les frontières, de l'air, de l'air. Ouvrez les frontières, de l'air, de l'air. Ouvrez les frontières.